Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Le trio John, Olivier et Evelyne est de nouveau réuni pour cette dernière émission de l'année de Quelles sont les nouvelles ? C'est la période des cadeaux, alors nous avons choisi de commencer aujourd'hui par une nouvelle qui nous a été offerte il y a déjà 14 ans par notre ami Gérard Streff. C'est un journaliste, écrivain, il a publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages. Mais c'est également un de nos plus fidèles auteurs, car il ne manque jamais notre appel à texte pour la revue. Ainsi, cette année, sur le thème du double, nous avons publié Prologue, qui introduit son roman Le Sosie aux éditions La Déviation. Quant à cette nouvelle que nous allons lire, Travail d'enquête, Gérard Streff s'est amusé à inventer une capitaine de police et son jeune adjoint qui ressemble étrangement aux deux éditeurs des Refusés, Olivier et moi-même. Nous allons donc jouer nos personnages respectifs et John va nous accompagner pour la voix du narrateur.
Ah, la gare, la gare. Quelle que soit l'heure, la gare de Nancy offre toujours le même spectacle. Les figurants changent, mais la mise en scène est la même. Dans le hall, il y a plusieurs tribus. Celle des pétrifiés, tête levée, les yeux sur les panneaux. Celle des sprinteurs, contournant, enjambant, disparaissant côté des quais ou de la ville. Celle... des fouineurs qui zigzaguent entre les passants comme s'ils étaient là à la recherche d'un rendez-vous manqué. Et puis il y a la brasserie avec le clan des assis. Du genre anxieux, silencieux, toujours en avance ou retardataire bavard, espérant prendre le train suivant. Sans parler des moineaux. Alors ceux-ci sont particulièrement culottés. Ils s'invitent dans les travées des cafés, picorent sur les guéridons, passent de client en client avec une rare effronterie. L'un d'eux partage justement les miettes du petit déjeuner de la capitaine Evelyne Cuny et de son nouvel adjoint, Olivier Théron. Cheveux rouges, incendie, de grands yeux bleus, une bouche magistrale dans un visage pointu, un petit deux pièces de couleur flamboyante, la capitaine regarde avec bonhomie le jeune homme. Cheveux courts, visage rond, mais menton carré, yeux légèrement en amande, costume de jean qui l'accompagne. Ah, Olivier est dans ses petits souliers. Il s'attendait pas à un tel honneur. Tombé sur Evelyne Cuny pour son premier stage. Waouh ! Bonjour l'angoisse. La dame est une institution, hein, à la PJ. Elle est l'auteur d'un manuel élémentaire sur l'enquête. Oui. C'est le livre de chevet des élèves de toutes les bonnes écoles de police. On dit le Cuny, comme on dit au bahut la gare des Michards, par exemple. Le petit déjeuner avalé, la capitaine recommande deux cafés. Et le jeune homme laisse faire. Elle a un côté pédago, ça s'entend même aux aurores.
Chez les flics, petit, le travail, c'est d'abord l'enquête. Et la reine des enquêtes, c'est la criminelle. Tu m'entends ?
Oui, madame.
Madame, on dit capitaine, petit, on dit capitaine.
Capitaine.
J'espère que tu aimes écrire, petit.
Oui.
Parce que dans la crime, on passe un temps fou à écrire. Tu sais ça ?
Oui, je sais ça.
On est un peu les greffiers de la mort.
Evelyne Cuny semble contente de sa formule. Elle la répète.
Oui, les greffiers de la mort. Et il ne s'agit pas d'écrire n'importe comment, hein. Il y a des règles, une méthode.
Par exemple ?
Eh bien, tu arrives sur les lieux du crime. Un appart, n'importe où. Un type est à terre. Un couteau entre les épaules. Tu mettrais quoi dans ton rapport ?
Que cet homme est mort.
Tu vas trop vite, petit ! Tu vas trop vite ! De la méthode. Il faut aller du général au particulier, ok ?
Du général au particulier.
Tu commences par décrire le coin, l'adresse, la date, ok?
Ok, capitaine.
Tu comprends, c'est pas pour toi que tu écris, ni pour le public. Le flic doit pas se prendre pour un romancier. Tu as un lecteur, un seul, le magistrat. Et l'autre, il a 30 dossiers à se taper dans la matinée ou à l'heure, les grands jours. Alors, il faut qu'en quelques lignes, il arrive à situer le décor de ton histoire, ok?
Olivier Théron opine.
On continue. Travail, travail. Tu passes à l'objet du délit, le corps. On le protège, le corps.
Comment ça, on le protège?
Bah oui, en enfilant des gants, par exemple. Te voilà devant le corps, donc. Vas-y, à toi d'écrire, maintenant.
C'est-à-dire?
À toi de présenter la scène. Allons-y, allons-o.
Théron gonfle les joues, soulève les sourcils et hésite. La dame s'impatiente déjà.
C'est pas sorcier. On va s'intéresser à quelle heure il est mort, le Gus. Dans les polars, il y a toujours un type pour donner l'heure à la minute près. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. C'est même souvent approximatif, ce qu'on peut raconter sur l'heure et le jour. Et puis, faut décrire la position du bonhomme, chercher des traces. Des indices.
Des empreintes?
Absolument, des empreintes. On mettra de la poudre sur les objets que la victime et l'assassin ont pu tenir. Le problème, tu vois, c'est que souvent il y en a trop des traces. C'est le cas d'ailleurs avec notre tueur de vieilles. Tu vas voir.
Des taches? On cherche des taches?
Excellentes les taches! Ça peut être du sang, va savoir, du vieux sang séché.
Un cheveu?
Oui, ça c'est bon.
Quoi?
Le cheveu?
Bah pourquoi?
Mais petit, qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? Un cheveu, mais c'est facile à étudier, et ça conduit souvent à son propriétaire. Donc, faut se dire que l'assassin a forcément laissé une trace. Après ces préliminaires, on fouille. Tout l'appart, la vie du mort. Il faut toujours partir de la victime. C'est d'elle que tu vas remonter au suspect.
Mais comment on fait?
Ah, faut trouver par exemple son jardin secret. Il en a un, forcément. À un moment, tu vas voir. Tu en sauras vite plus sur lui que toute sa famille réunie. Sur ses petites manies, ses cachotteries. Plus tu connais la victime, plus vite l'identité de l'auteur du crime arrivera.
Pendant ce temps, un moineau s'est carrément installé sur la table. Il sirote deux larmes de café qui restaient dans une soucoupe.
Boivent du café les piafs maintenant,
s'étonne le capitaine qui poursuit.
Tu sais, petit, la crime, c'est le rouleau compresseur quand elle s'y met.
Carrément.
Carrément. Non seulement on écrase tout, mais on est lent comme la machine. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis la main sur un type. L'enquête durait depuis 14 ans. T'imagines la tête du bonhomme quand il nous a vus arriver? 14 ans après, il avait refait sa vie. Remarié, des mômes, nouveau job et tout. Pourtant, il a pigé tout de suite quand il m'a vu. Un peu comme s'il m'attendait, malgré tout ce temps. Il n'a pas fait de difficulté. Il nous a suivis. Ça n'a pas traîné.
14 ans?
Alors dis-moi, comment on fait pour trouver une piste? T'es mou, petit, t'es mou. On sonde les témoins, on décortique le carnet d'adresses, on fait une enquête de voisinage, on part de l'idée qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Ou une enquête de passage. Tu sais que la victime passait par un lieu précis tous les jours à telle heure. Tu te colles à cet endroit, tu interroges, tu demandes aux habitués s'ils n'ont pas remarqué un truc inhabituel.
Un portrait robot?
Bien, c'est bon ça, le portrait robot, pour retrouver un suspect. Mais il faut déjà disposer de choses précises. Il y a encore les écoutes téléphoniques. C'est surveillé comme méthode, mais bon, on peut essayer.
Ou les écoutes informatiques?
Ou informatiques, exact.
C'est une vraie volière qui squatte la table à présent. Le serveur fait mine de vouloir chasser les intrus, mais Cuny lui dit de laisser tomber.
Bon. Tu trouves un suspect. Tu l'arrêtes. Il y a la garde à vue. Ça consiste en quoi? Allez, travail, travail!
Le capitaine ne laisse pas son jeune adjoint le temps de répondre.
D'abord, Oubliez l'idée qu'on fait parler les gens à coups de bottin et de projecteur dans les yeux. Ça, c'est du cinéma. On n'a jamais rien avec cette méthode. C'est inefficace au possible. On n'interroge pas par la force. Dis-toi qu'on est en face d'un mur et qu'il va falloir le démonter bout par bout, brique par brique.
Brique par brique.
Première règle, ne jamais attaquer bille en tête avec le crime. Ça, c'est zéro pointé. Tu prends ton temps. Tu as 48 heures devant toi. OK ?
Ben, OK, oui.
Règle opposée. Ne pas oublier le moment venu de poser la question, la bonne question.
Quelle question ?
Oui, parce que je connais un cas où des collègues cuisinent près de 40 heures un bonhomme. Puis les flics, crevés, vont manger une pizza. Une secrétaire assure la permanence. Elle demande au gars pourquoi il a tué. Il avoue, sans problème. Elle lui fait remarquer qu'il n'avait rien dit jusque-là. Il répond, mais on ne me l'avait pas demandé.
Elle est bonne celle-là.
Autre règle, faut empêcher le bonhomme de dire non. C'est un jeu psychologique. Je connais un cas, c'est quelqu'un qui garda le silence pendant 46 heures. Motus pendant 46 heures, faut le faire, hein ? À la 47e, il avoue, mais assure ne rien vouloir signer. J'étais coincé. J'avais rien d'autre contre lui. Résultat, on n'a pas pu l'embarquer. Il est sorti libre une heure après.
Les volatiles, leur razzia terminée, s'attaquent à une tablée voisine, occupée par des touristes effarouchés.
T'inquiète pas trop, petit. C'est dur pour un flic, même doué, de tenir tous les fils. En fait, c'est le groupe qui mène l'enquête. On échange, on discute. Tu sais, les meilleurs enquêteurs sont des gens mariés, avec des enfants.
Ah bon ?
Oui. Les journées sont dures, on a tendance après à picoler si on est seul, trop libre. On plonge vite. Hein. T'es marié au moins ?
Ben non.
T'es homo ?
Ben non.
Ah c'est pas bon petit, faut régulariser, faut te marier.
Je savais pas capitaine.
Te voilà averti.
Théron a l'air déconfit, alors Cuny enchaîne.
Il n'y a pas de crime parfait, il n'y a que des enquêtes imparfaites.
C'est bien dit.
Oui, une enquête sur trois, foire.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
La capitaine reste songeuse. Elle regarde sans la voir l'agitation du hall, puis sursaute.
Tu sais à quoi je rêve, petit ?
Théron prudent fait des yeux ronds et répond pas.
Et ça me prend souvent, hein ?
Ah bon ?
À écrire.
Écrire ?
Écrire, oui.
Des rapports ?
Non, pas des rapports, ni des manuels. J'en écris à longueur d'année, des rapports. Non ! Mon rêve, c'est d'écrire des romans.
Des romans ?
Et quel genre de romans, figure-toi ?
Ben, je sais pas, moi.
Des romans policiers.
Des romans policiers ?
Oui, des polars, quoi. J'adorerais écrire des polars.
Oh, ben, c'est drôle, ça.
Ben, c'est ce que tout le monde me dit. C'est drôle de vouloir écrire un polar quand on est flic. Mais je vois pas pourquoi. Y a pas de rapport, si j'ose dire.
Ben si, quand même un peu, non ?
Non, y a pas de rapport. Y a même un monde entre l'enquête et le roman. Le travail, l'enquête, c'est d'abord des corps déchiquetés, des proches hystériques, et le pire.
Oui, le pire, c'est quoi ?
Le pire, c'est l'odeur. Ça pue, la mort. C'est pas croyable ce que ça pue. Au bout de quelques heures, bien sûr. L'odeur, je te jure, c'est ce qu'il y a de plus pénible dans ce boulot. Une odeur qui colle à la peau. On a l'impression de la trimballer sur soi.
Elle fait un geste violent de la main devant son visage, comme pour chasser des mouches à viande.
Et puis, une enquête, c'est austère. On passe la moitié du temps sur l'ordinateur, à pianoter, et l'autre moitié, à planquer. À pister d'éventuels coupables. On s'ennuie beaucoup dans ce boulot, tu le sais. Or, avec les romans, pas de cris à subir, pas de viande explosée sous les yeux, pas d'odeur, surtout pas d'odeur. Et pas de temps mort non plus. On court tout le temps dans les romans. On bouge, on se marre, souvent. Et puis, pas de paperasse à remplir dans le roman. Le pied, non ?
Un ange passe. La capitaine appelle la serveuse. Théron tente de régler, mais sa chef l'en empêche et paye. Les flics se lèvent et Cuny regarde son adjoint.
Ah, la vie, c'est pas un roman, petit. Travail, travail.
Ouais.
Alors, petit, tu veux toujours être flic ?
Oh oui, capitaine. Oh oui, capitaine. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Alors, vous venez d'entendre Light My Fire, interprété par José Feliciano. Oui, pour cette émission, nous avons délaissé nos morceaux de jazz habituels pour nous replonger dans les standards pop de notre adolescence. Ah, c'est pas tout neuf, hein, Olivier, hein ? Oui, mais passons à la deuxième nouvelle. Alors, justement, Olivier, nous te laissons nous présenter L'effet miroir et son autrice, Isabelle Flatten.
Isabelle Flatten est une autrice nancéenne. Nous l'avons rencontrée dans un salon littéraire de la façon la plus simple qu'il soit. Nous étions assis côte à côte.
Oui, effectivement.
Elle a tout de suite et avec une grande gentillesse répondu positivement à notre demande d'écrire une carte blanche pour le numéro 24 des Refusés sur le thème du double. C'est cette carte blanche que nous allons vous lire. Elle est née en 1957, à Strasbourg et a vécu un temps à Prague. En 2019, elle reçoit le prix Erckmann Chatrian pour son roman Adelphes. En 2023, elle publie Un honnête homme, dans lequel elle réécrit l'histoire de Madame Bovary du point de vue de son mari Charles. Elle a publié de nombreux recueils de nouvelles, notamment aux éditions Le Réal Gare. Pour vous mettre en appétit, je ne résiste pas au plaisir de vous lire l'incipit, la première phrase, de son roman La folie de ma mère. Une dame me propose un yaourt. Elle a l'air gentille. Je plonge la petite cuillère dans le pot. La dame m'arrête. On dit merci, maman. Efficace. Voici donc l'effet miroir d'Isabelle Flatten, où il est question d'une même histoire vue par deux concierges, à moins que ce soit deux histoires racontées par la même concierge, ou encore la même histoire vue par la même concierge deux fois.
Oh là là.
Bah oui, quoi qu'il en soit, sachant que l'esprit de la concierge est dans l'escalier, l'effet miroir sera ce que vous en ferez.
Pas mal.
L'immeuble est une grande famille. C'est comme si elle était leur mère à tous. Ils toquent au carreau de sa loge pour un oui, un non, parfois juste pour s'assurer qu'elle est toujours là, à veiller sur eux. Lorsqu'elle part quelques jours chez sa sœur, c'est la panique. Ils veulent connaître sa date de retour, savoir qui va la remplacer. Par pitié, pas le type de la dernière fois, oublieux et odieux. Un bonhomme pas du tout comme elle, qui est fiable, aimable et disponible. Chaque jour, ils la remercient de tout ce qu'elle fait pour eux, car ils le confessent. Il ne serait pas grand-chose sans elle, totalement démunie en vérité. À Noël, sa loge regorge de cadeaux et son compte en banque d'étrennes. De chaque voyage, il lui rapporte des souvenirs, lui envoie des cartes postales, des photos aussi. Ses murs sont recouverts de bouilles enfantines. Elle a vu naître et grandir un paquet de bambins au fil des années. Une fois adulte, lors de leur visite aux parents, certains passent la voir, s'inquiètent de sa santé, racontent ce qu'ils sont devenus. Ça lui fait plaisir. En cas de déménagement, ils ne partent pas sans lui laisser leur nouvelle adresse. Si jamais elle passait dans le coin, elle serait la bienvenue. S'il la croise en train de sortir les poubelles, il lui file un coup de main. Ils avancent à tout petit pas précautionneux lorsqu'elle lave le sol. Quand ils vident leurs armoires ou se débarrassent d'objets, meubles, dont ils ne veulent plus, ils les lui soumettent toujours avant de les jeter. Si elle avait eu assez d'espace, elle aurait eu de quoi remplir 10 boutiques. À plusieurs reprises, elle a repoussé le moment de prendre sa retraite, mais depuis quelque temps, sa carcasse ne suit plus. Son dos est en compote. Elle va devoir les quitter très prochainement. Cela lui fend l'âme. Le leur annoncé a été une épreuve. Pour adoucir les adieux et parce qu'il n'était pas question pour eux de la laisser partir sans lui exprimer leur reconnaissance, ils se sont réunis, ont décidé de privatiser un restaurant et de lui offrir une grande fête. Elle en a eu les larmes aux yeux et le cœur chaviré.
L'immeuble est un repère de vauriens.
Oh.
C'est comme si elle était un vulgaire accessoire dans leur existence. Ils toquent au carreau de sa loge pour un oui, pour un non, le plus souvent pour râler ou s'assurer qu'elle est toujours là, à leur entière disposition. Lorsqu'elle part quelques jours chez sa sœur, c'est l'enfer. Ils exigent de connaître sa date de retour, de savoir qui va la remplacer, avec un peu de chance, le même que la dernière fois, hein, un homme serviable et souriant, pas du tout comme elle, qui est ronchon, désagréable, et jamais là quand on a besoin d'elle. Chaque jour, il trouve quelque chose qui cloche. Un courrier mal distribué, une clé égarée, un paillasson déplacé. Ça les contrarie à tel point, disent-ils, qu'ils la gardent uniquement par charité. À Noël, aucun cadeau n'est déposé devant sa loge, et pas la moindre étrenne sur son compte en banque. De chaque voyage, il lui rapporte des traces de valises à roulettes, à nettoyer, et l'envoie paître si elle se plaint. Les mioches, s'imaginent parfois que les barbouillages qu'il lui tendent dans un sourire enfariné vont finir sur son mur, alors qu'elle les détruit, réduit aussitôt en 1000 morceaux. Elle a vu naître et grandir un paquet de salopios au fil des années. Lors de leur visite aux parents, certains font mine de s'inquiéter de sa santé, se vantent de ce qu'ils sont devenus, ça la barbe. En cas de déménagement, ils partent sans même lui dire au revoir. Ça vaut mieux pour eux. Elle pourrait leur régler leur compte. Il ne lui file jamais un coup de main pour sortir les poubelles. Il piétine de leur sale godasse le sol qu'elle vient tout juste de laver. Quand ils vident leurs armoires ou se débarrassent de leurs vieilleries, il les fourgue devant sa loge, si jamais leur rebut lui plaisait. De quoi remplir 10 déchetteries. Afin d'épaissir le montant de sa retraite, elle a prolongé son activité de 2 années supplémentaires, mais depuis quelque temps, sa carcasse ne suit plus. Son dos est en compote. Elle va enfin être débarrassée d'eux. Cela lui réjouit l'âme. Pas question de partir sans leur faire des adieux. Elle va leur faire la fête, leur fête. Elle va tout saloper, vider les poubelles devant leur porte, déposer des crottes de chien dans les escaliers, déverser du sirop dans les boîtes aux lettres, arroser des plantes d'eau de Javel et caillasser le miroir de l'entrée. Elle en a le fou rire et le cœur galvanisé d'avance.
Après la magnifique voix de Joni Mitchell qui nous interprétait Blue, nous approchons déjà de la fin de l'émission. John, tu as choisi de lire une nouvelle d'Alain Delotal que nous avons publiée dans le numéro 23 de la revue. Mais je te laisse nous présenter cet auteur.
Oui, alors c'est un touche-à-tout de génie, Alain, puisqu'il écrit aussi bien qu'il souffle dans son harmonica. Il joue d'ailleurs sur l'un de mes disques. Personnage entier, fort en gueule, mon ami Alain a créé aussi avec d'autres gens le festival de Xérocourt, un village dont il a été le maire durant de nombreuses années et dans lequel il vit toujours. Il vient juste de sortir d'ailleurs un joli bouquin sur le festival de Xérocourt qu'on peut trouver en librairie sur Nancy ou lors des salons du livre du secteur. Voici donc son texte court intitulé « Jam Session ». Jam, en anglais, dis-moi Olivier, c'est la confiture, non ?
Oui, la confiture qui dégouline.
Oui, c'est celle-là, oui. Oui. Ah, d'ailleurs, à ce propos, Evelyne, j'aime beaucoup la confiture que tu nous as offert la dernière fois, la confiture de mûre, là, de Vic-sur-Seille. Super. Bon, enfin, bon, je m'égare. Concentrons-nous sur James Mission, Alain Delotal. Formé à la patience, entraîné à l'observation, j'avais appris à optimiser tous mes sens. Ah, je pouvais rester des heures sans bouger un muscle. J'étais capable d'évaluer l'adversaire, de localiser la cible, de décider seul de la stratégie, de la méthode et de meilleurs moments pour agir. La rapidité était essentielle et sur ce point, je ne craignais personne. J'étais la meilleure. Les autres, ils n'avaient pas survécu. C'était la règle. La moindre défaillance était fatale. J'étais sur zone depuis 5 jours. Le premier jour, j'avais procédé à une reconnaissance générale. Mon équipement me permettait de survoler le site sous tous les angles sans me faire repérer. Le deuxième jour, j'avais mémorisé les lieux, les accès et surtout les issues possibles. Je devais en identifier 3. Ah, même difficile, même invraisemblable. Tout pouvait arriver. Il fallait parfois s'arracher en catastrophe avant même que la mission soit exécutée. Et évidemment, dès qu'elle l'était, cette mission. Les 3 autres jours étaient consacrés aux habitudes de la cible. Tout était important, ne rien laisser au hasard était aussi une condition de notre survie. Pour entrer, ça n'avait pas été très difficile, la routine. Je m'étais glissé dans un immense placard. Les 600 facettes de mon système de vision ultra sophistiqué me permettaient de tout voir par un interstice. Je calculais le meilleur angle d'attaque. Je savais que je disposerais de très peu de temps. 6e jour, j'étais en planque. Debout, en caleçon, l'autre faisait chauffer le café. Il me tournait le dos. Il avait posé le couteau près du pot de marmelade. C'était le moment. Je pris mon envol hors du placard. J'atterris sur la confiture. Mission accomplie, 4 secondes. L'autre se retourna, sa main se referma sur le vide. Trop tard. Au revoir tout le monde, et à l'année prochaine.
Bonne année, bonne santé, etc., etc., etc.
Oui.
Au revoir, à l'année prochaine.
Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RCN. À bientôt.
À bientôt.